RCF Accor Poitou, l'invité de la rédaction. Bonjour, monsieur Brie. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, dire ce que vous faites un peu dans la vie?
Alors voilà, donc moi je suis bénévole donc depuis très longtemps, depuis les années 70, et actuellement j'anime une commission eau au sein de la Fédération régionale Poitou-Charentes Nature.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'agriculture. Première question que j'aimerais vous poser, c'est comment mieux gérer finalement l'usage de l'eau dans le domaine agricole? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a quand même certainement du gâchis, certainement du surplus d'arrosage. Comment faire?
Alors, mieux gérer, c'est adapter les prélèvements, en l'occurrence agricole, à la ressource. Et là, nous avons fait un code de l'environnement qui précise les choses et qui privilégie l'eau potable et les milieux aquatiques. Hein. Ça veut dire que quand ces besoins-là sont satisfaits, on peut prélever donc pour l'irrigation des cultures. Alors donc les prélèvements agricoles sont d'ailleurs gérés par les préfets actuellement, hein, dans la région avec 4 départements, qui définissent dans chaque département des seuils, hein, à partir desquels l'irrigation peut être restreinte, voire interdite. Hein. Voilà, il y a un cadre réglementaire, mais ces seuils demandent à être définis de manière rationnelle, par exemple en tenant compte de l'historique, qui donne un lien entre le débit de la rivière à une station et sur l'état global. Les politiques vont dans le sens d'une adaptation de la culture irriguée avec des méthodes qui sont moins consommatrices d'eau, dont les sols vont retenir l'eau plus que par une agriculture intensive.
Et en quoi consistent ces techniques justement spécifiques que vous mentionnez à l'instant?
Alors ces techniques, eh bien, on appelle quelquefois l'agriculture durable. Ça veut dire qu'il prend compte des sols. Plus un sol sera riche en humus, plus il va retenir l'eau et sera donc moins sensible aux épisodes de sécheresse.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce processus, finalement, ce cercle vertueux qui pourrait se mettre en place si jamais les habitudes des agriculteurs changeaient en matière d'eau?
Alors le processus est engagé, hein, ça veut dire qu'un pourcentage d'exploitants aujourd'hui sont dans cette démarche-là, hein, agriculture durable, agriculture biologique, hein, c'est basé sur la fertilité naturelle du sol, avec des techniques qui, comme je disais tout à l'heure, préservent l'humus des sols. Voilà. Néanmoins, le plus grand point, le premier point, c'est quand même d'économiser les ressources en eau. D'abord, économiser. Et en même temps qu'on emploie des techniques qui vont permettre, en fait, qui permettent aujourd'hui déjà de mieux supporter des épisodes de sécheresse, mais en même temps de s'affranchir des épisodes qui pourraient s'accentuer avec le changement climatique.
Est-ce que vous pensez que l'initiative doit venir des agriculteurs eux-mêmes, ils doivent eux-mêmes apprendre à modifier leurs pratiques, ou qu'il doit y avoir une incitation des pouvoirs publics pour que justement ces agriculteurs changent leurs habitudes? Alors je ne sais pas, peut-être une incitation ou une punition, on parle aussi d'écologie punitive ou incitative dans certains cas, comment ça peut se faire?
Alors d'abord, aujourd'hui, ça existe déjà. Aujourd'hui, certains agriculteurs sont en capacité d'évoluer parce qu'ils prennent les devants. Mais l'accompagnement que vous suggérez, l'accompagnement est essentiel pour la totalité de l'agriculture. Et cet accompagnement, il est prévu aujourd'hui dans les politiques publiques, dans les SDAGE, dans les schémas directeurs de la gestion des eaux que nous suivons avec François-Marie Perrin. Cette question est essentielle. Elle est prévue. Bon, c'est vrai que la mise en œuvre va demander du temps, mais l'accompagnement est nécessaire, intéressant et positif pour tous. Je crois que un exploitant, qu'il soit industriel ou agricole, a tout intérêt à se préparer à une évolution plutôt que de la subir.
Ce dont on parle là, est-ce que ça ne pourrait pas signer la mort finalement, ou tout du moins dégrader encore un peu plus l'état de l'agriculture extensive et favoriser justement une agriculture intensive qui se ferait hors sol avec plus de contrôle du coup sur les cultures? Est-ce que finalement ce contrôle accru en matière d'eau ne pourrait pas signer la mort du petit producteur, du petit agriculteur qui n'aurait plus les moyens de faire face aux techniques imposées pour mieux apprendre à gérer l'eau par les pouvoirs publics?
Alors, je pense pas. Je pense qu'il faut préserver les petites exploitations. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, c'est donc aux actualités, les grosses entreprises sont regardées de manière critique par tous, y compris par les agriculteurs. Hein. Quand on parle des fermes de 1 000 vaches, c'est d'abord dans les exploitations, je dirais, qui vise à préserver l'aspect économique, mais au détriment de l'ensemble des petits exploitants, qui sont quand même en plus grand nombre. Je crois que tout le monde, y compris eux-mêmes, regarde ces points-là de manière critique. Il vaut mieux un fonctionnement diffus et global et durable que des grosses exploitations qui vont gérer, qui vont créer, si vous voulez, des problèmes de fonctionnement et qui vont à la perte des petits exploitants.
Est-ce que vous ne pensez pas finalement que la pénurie d'eau, ou tout du moins la restriction d'eau qui s'annonce, va aller peut-être en faveur des énormes groupes, je pense notamment à l'industrie Monsanto. Monsanto qui pourrait peut-être développer justement des graines de blé ou que sais-je, ou de maïs, qui nécessiteraient un arrosage bien moindre et des graines qu'ils vendraient aux agriculteurs, puisque finalement les OGM rendent ça possible, envisageable.
Il faut bien s'en garder, d'autant qu'on manque de recul là-dessus et que on ne sait pas si on s'engage dans des techniques comme celle-là, on ne sait pas où on va. Déjà, on sait très bien que les OGM, certains OGM, censés réduire en fait les pesticides, au contraire, les augmentent. Parce qu'en fait, il s'agit de cultures qui ne sont pas sensibles au glyphosate, par conséquent, on en met encore plus. Et sur les quelques années d'expérience que nous avons aujourd'hui, on voit que c'est tout le contraire qui se produit. Bon, attention, effectivement, aux multinationales qui ne pensent qu'à elles, bien entendu, et qui se fichent complètement de l'avenir et même des petits exploitants.
Merci Jacques Brie d'avoir été notre invité local. Je rappelle que vous participez à la commission eau de Poitou-Charentes Nature.